L'EM, l'émission. L'émission. Sur Transistor. Creuser le Finistère, labourer les circuits courts, plonger au fond.
Bonjour, bonjour et bienvenue dans l'émission, le magazine qui plonge vos oreilles dans le Finistère avec toujours, en cette 9e saison, les invités du LEM. Le mardi, une fois par mois, cette saison, on réalise une émission en partenariat avec l'association Les Petits Débrouillards Bretagne. C'est une association qui fait de la vulgarisation, on dit aussi de la médiation, des sciences et des techniques. Et parmi les sciences abordées, il y a beaucoup de sciences, toutes les sciences, hein, la climatologie, l'écologie, l'hydrologie pour l'eau, la biologie, des sciences humaines aussi. Car je vous rappelle que le thème de notre série d'émissions, c'est l'adaptation des humains au changement climatique. On a déjà évoqué par exemple l'adaptation au risque de montée des eaux et d'inondations à Quimperlé, les adaptations nécessaires dans les exploitations agricoles et aux jardins. Et on a même comparé la Bretagne avec ce qui est vécu dans une région de l'Inde. Les petits débrouillards sont pleins de ressources. Aujourd'hui, direction Quimper et la Cornouaille, avec Geneviève Canivingue pour les petits débrouillards. Elle est accompagnée de Julie Francheteau, une architecte qui est aussi coprésidente d'une association Approche Éco-Habitat, des pros du bâtiment qui réfléchissent à leur impact sur le climat, sur les pollutions, sur la biodiversité. Bonjour à toutes les deux.
Bonjour.
Alors, on ne peut pas aborder toutes les questions liées à l'habitat et au changement climatique. On va donc se concentrer uniquement sur la rénovation. Et il y a déjà assez de travail, je suppose. Alors, à quoi est-ce qu'il faudra, dans l'avenir proche ou moins proche, d'ailleurs, adapter son logement en matière de climat, bien sûr?
Déjà, de base, un logement, c'est fait pour protéger. Il n'y a pas besoin d'avoir un changement climatique pour qu'un logement, sa vocation, ça soit de protéger. Avec le changement climatique, on sait que l'eau, ça va changer. Et on sait aussi que les températures, ça va changer. Avec augmentation notamment de la fréquence des canicules.
Même chez nous en Bretagne?
Même chez nous en Bretagne. On en a eu, alors ici en Finistère en 2022. Il y a eu également des canicules en Bretagne en 2023, même si en Finistère on n'a pas été touché, c'était plutôt l'Ille-et-Vilaine. Et on sait que ça va devenir de plus en plus fréquent et on sait que ça va durer aussi de plus en plus longtemps. Et donc, au niveau du logement, pour ce qui nous concerne, là, ici, on est en Finistère, il faut continuer à se protéger de ce qui existait déjà et commencer également à se protéger de la chaleur.
Ça, c'est nouveau, Julie Francheteau. Hein, la chaleur, ce n'était pas tellement une demande, j'imagine.
Oui, tout à fait. Sur la rénovation en Bretagne, on a beaucoup d'enjeux sur les questions d'humidité, par exemple. Hein, ça, c'est quelque chose qu'on retrouve essentiellement sur ce territoire-là. Mais de plus en plus, on prend en compte les risques de surchauffe. C'est quelque chose qui est vu d'un point de vue national déjà, hein, mais on le remarque aussi sur la Bretagne, avec des demandes de plus en plus importantes pour se protéger des surchauffes d'été, notamment.
Et alors, voilà, la base, c'est l'installation d'un système de climatisation, mais bon, on va en parler, c'est pas forcément une bonne idée. Qu'est-ce que ça peut être, sinon, des rénovations pour se protéger de la chaleur?
Alors déjà, pour se protéger de la chaleur, le plus simple, avant d'utiliser la climatisation, finalement la climatisation, elle va servir à réparer quelque chose qui a mal été pensé dès le départ. Donc pour se protéger de la chaleur, aujourd'hui, on va plutôt s'en protéger, justement. On peut utiliser de la végétation, on peut utiliser des pergolas hein, dans le sud de la France. C'est des choses aujourd'hui, des projets qui sont tous développés avec cette idée-là.
Une pergola devant la maison, c'est ça? Enfin, au lieu d'une véranda, on met une pergola avec des plantes dessus, c'est ça?
Oui, quand on fait des orientations qui vont vers le sud, hein, c'est important en toiture d'être protégé, de manière à ce que le soleil, qui n'a pas la même inclinaison tout au long de l'année, va pouvoir rentrer dans l'habitat en hiver, parce que le soleil est plus bas, donc il va pouvoir aller plus loin dans l'habitat et chauffer l'intérieur de la maison. Et quand le soleil en fait est très haut, il faut pouvoir s'en protéger pour que le rayonnement ne rentre pas trop à l'intérieur de la maison. Donc pour ça, on peut mettre en place des casquettes, des stores, de la végétation. La végétation a l'avantage d'être adaptable justement, hein, puisqu'il y a de la végétation en été,
ouais.
Donc ça protège bien, et en hiver la végétation disparaît et permet au soleil de rentrer, de profiter au maximum de cet apport solaire gratuit.
Geneviève?
Il y a aussi, donc là on était en train de parler de solutions individuelles, c'est-à-dire comment je fais pour aménager ma maison de façon à ce qu'elle puisse me protéger de la chaleur, mais sachant qu'il y a aussi des dimensions collectives en fait sur ces aspects-là.
Dans tous nos sujets, hein. C'est vrai que là c'est vraiment...
Et dans un quartier qui va être très bétonné, très bitumé, ça va fonctionner comme un accumulateur de chaleur et donc ça va vraiment aggraver le problème. On appelle ça des îlots de chaleur. Et donc ces solutions, notamment avec la végétation, font aussi partie des choses qui peuvent être utilisées pour aménager l'espace public, c'est-à-dire laisser revenir des plantes, des arbres, des buissons, parce que la végétation va pomper de l'eau, l'évaporer. Ce faisant, en fait, c'est vraiment très, très basique. L'évaporation de l'eau absorbe de la chaleur et du coup, on va avoir une ambiance globale et générale qui déjà va être beaucoup plus favorable à des maintiens de température plus stables.
Alors, on est déjà en train d'entrer dans les solutions, ce qui est très bien. Hein.
Oui, pardon,
on va
désolé.
En parler. Non, mais c'est ma faute. C'est ma faute, je fais dériver sur les adaptations, enfin, sur ce à quoi on doit être attentif dans son logement par rapport au changement climatique. Vous l'avez évoqué, Julie, il y avait les questions d'humidité, mais ça, il faut bien voir qu'avec le changement climatique, ça risque, chez nous, en Bretagne, de s'accentuer, les problèmes d'humidité. Donc là, ça va rester, mais ça va être pire, peut-être.
On a de nouveaux enjeux à prendre en compte aujourd'hui. Donc la chaleur dont on parlait, ça n'enlève en rien les enjeux actuels de la rénovation sur le bâtiment breton, effectivement. On sait aujourd'hui que de l'air plus chaud, c'est de l'air plus humide aussi. Donc évidemment, il y a ces questions d'humidité, elles sont omniprésentes, elles vont rester omniprésentes sur ces bâtiments-là et sur les enjeux de les rénovations aujourd'hui, oui.
Ouais, les questions, c'est quoi? C'est la mérule et ces champignons, c'est ça, surtout des problèmes de champignons?
Alors, beaucoup les problèmes de champignons, des problèmes qui sont liés aux problèmes de remontée capillaire. Hein. Il faut bien comprendre qu'il y a de l'eau dans le sol. Hein, c'est comme ça, c'est pour ça que les végétaux poussent. Et donc, quand on construit dans la terre, hein, pour pouvoir asseoir une maison correctement, il faut pouvoir l'ancrer aussi dans la terre. Et donc, l'eau qui se trouve dans le sol va remonter par les murs. Et ça, c'est possible, en fait, il le faut quelque part, mais il faut que cette eau qui monte dans les murs, elle puisse s'évaporer et elle puisse sortir de ces murs-là. Et ça, ça va dépendre des matériaux qu'on utilise.
Il y a aussi, d'ailleurs, puisqu'on est sur le sol, est-ce qu'on a des problèmes de stabilité des bâtiments? Enfin, il y a des régions où le sol se rétracte à cause de la chaleur et...
Tout à fait. On a des sols qui bougent hein, de tout temps. On sait que quand il y a des grosses pluviométries et des grosses sécheresses, les caractéristiques physiques du sol bougent, créent des désordres. En Bretagne, ça commence. On peut imaginer, en tout cas, que s'il y a de plus en plus d'épisodes de sécheresse, il y aura des conséquences sur l'habitat. Donc, il faut aussi réfléchir à tout ça, évidemment.
Bon, sans parler aussi des inondations dont on a déjà parlé lors d'une précédente émission. Donc, avec peut-être réfléchir à surélever certains logements. C'est plus difficile dans le cadre d'une rénovation, hein, de surélever, j'imagine. Mais on peut quand même adapter, éventuellement.
On peut adapter, et puis il faut... Oui, tout à fait, on peut adapter. Il y a aujourd'hui des zones, hein, les services d'urbanisme éditent, hein, des plans de prévention des risques de submersion littorale, dans lesquels, on ne peut plus faire de rénovation, par exemple. Il faut aussi se renseigner là-dessus, hein, des logements qui seraient vraiment trop en zone de risque.
Hein, trop exposés,
oui. Oui, voilà. Donc on arrive, il faut aussi comprendre ça, c'est qu'il y a un vrai
enjeu
d'adaptation.
On ne peut même pas les rénover...
Certaines zones aujourd'hui ne sont plus rénovables, c'est-à-dire que vous pouvez pas faire d'aménagement de surface, c'est plus possible.
On peut éventuellement faire une rénovation thermique ou non, même
on
pas.
On peut faire une rénovation thermique, quand même.
Alors, quand on parlait d'adaptation, puisque c'est le sujet, on l'a évoqué un petit peu, mais il y a aussi les erreurs, ce qu'on appelle les maladaptations. Alors, en matière de rénovation, qu'est-ce que ça peut être les maladaptations de rénovation?
Alors, les maladaptations sur le... Je vais donner un peu le classique Bretagne. Hein. On a parlé de cette problématique d'humidité, de perspirance des murs. Hein. Les murs qui sont capables de prendre de la vapeur d'eau, de les ressortir. En Bretagne, on a beaucoup de bâtis anciens. Quand on veut isoler une longère, vous habitez dans une longère, vous avez envie de l'isoler. Si vous décidez de faire de l'isolation par l'intérieur avec un isolant qui n'est pas ce qu'on appelle perspirant, donc qui ne va pas permettre... des échanges de vapeur d'eau, votre isolation, elle va condenser, se remplir d'eau, en fait, et donc l'argent que vous avez mis dans cette isolation-là, il ne sert à rien, parce qu'elle va, en fait, moisir, tout simplement. Donc ça, par exemple, c'est une des grosses erreurs, donc ne pas utiliser le bon matériau. Une autre erreur qui va...
C'est quoi, ça serait par exemple, je sais pas, une peinture ou un enduit trop imperméable, c'est
oui,
ça?
Oui, voilà, c'est ça. Par exemple, de mettre des enduits ciment, ça a été fait longtemps, c'est quelque chose qui emprisonne l'humidité. Tout ce qui va être trop étanche emprisonne l'humidité dans le mur. Donc on va plutôt partir sur des matériaux qui permettent la perspirance, des enduits qui sont chaud chanvre, perspirants, la paille, de la laine de bois, des choses comme ça, plus naturelles en fait. Et ensuite, il faut bien comprendre l'idée de bouquet de travaux. C'est des choses qu'on vous conseille régulièrement, mais c'est l'idée de... Le bâtiment est un écosystème, mais pour ne pas se tromper, il faut bien comprendre que chaque acte qu'on va engendrer va avoir des conséquences sur le reste. Donc le plus courant, c'est des personnes, par exemple, qui vont changer leurs fenêtres en pensant que on va rendre la maison plus étanche en mettant du double vitrage. C'est très bien, sauf que si on ne fait pas attention au système de ventilation en place, on peut créer de la moisissure. Voilà, donc ça, c'est des choses...
Un grand classique, ça.
Un grand classique.
Après, il y a eu, par exemple, il y a des engouements sur des équipements, je pensais, du chauffage. Enfin, par exemple, la pompe à chaleur, c'est pas toujours une bonne idée, c'est ça? Vous pouvez nous expliquer ça, peut-être?
Oui, alors, Julie, sur la pompe à chaleur, il y a... Aujourd'hui, c'est beaucoup plébiscité, c'est aussi beaucoup subventionné. Hein. Ça pose pas mal de questions sur est-ce que c'est adapté à tous les climats. Ça pose aussi la question pour la pompe à chaleur sur l'entretien. Il y a une unité extérieure qui doit être mise en place aussi. Où est-ce qu'on la met aussi par rapport aux voisins? Donc,
que c'est bruyant en fait, c'est ça, non? C'est ça le problème?
Ça peut être bruyant, oui.
Ça peut être bruyant et puis ça peut être aussi un désagrément pour les voisins, puisque là, je vais du coup revenir sur la clim. Il fait trop chaud, vous mettez une clim, ça veut dire que vous allez évacuer de la chaleur de la maison. Si vous mettez votre radiateur extérieur sous la fenêtre de votre voisin, là, il y a un problème. Et imaginons même une rue en centre-ville où il va y avoir 10 maisons. 8 maisons vont se climatiser, 2 maisons des propriétaires n'auront pas les moyens de mettre la clim, et quiconque, ils vont se retrouver dans une situation où leur logement va carrément devenir inhabitable.
Oui, parce qu'ils vont recevoir la chaleur des autres, en
fait.
C'est ça. C'est ça, oui. Mmh. En effet. Donc, je sais pas, d'autres exemples de maladaptation en matière de rénovation, éventuellement, ou... Bon, ça suffit peut-être.
Les travaux non coordonnés, manière générale, il faut gérer et la température, et l'humidité, et l'ensoleillement. Et tout ça doit être pensé de manière globale. C'est-à-dire qu'on va pouvoir mettre beaucoup d'argent sur la rénovation de sa maison, mais si c'est au coup par coup. Sans penser de cohérence entre les différents éléments, ça va coûter très cher pour n'apporter finalement pas grand-chose. Ça ne veut pas dire qu'on est obligé de faire tous les travaux.
Oui, mais c'est ce que j'allais dire, le problème, c'est quand même...
Mais on peut le penser globalement dès le départ, et puis se dire en année 1, je vais faire ça, en année 2, enfin ça, je pense que Julie t'en parlera beaucoup mieux que moi.
Oui, effectivement, c'est vraiment pour ça qu'on utilise de plus en plus cette expression « bouquet de travaux », qui veut dire qu'on n'est pas obligé de rénover sa maison dans la globalité pour faire quelque chose de performant et de pertinent. Par contre, il y a des étapes clés qu'on ne peut pas dissocier. C'est ça qui est bien important de comprendre. Donc, il faut avoir une vision globale sur jusqu'où je vais dans cette rénovation, quel est mon objectif complet, et dans ces cas-là, ou faire un phasage, se dire, comme tu le disais Geneviève, cette année-là je peux faire ça, cette année-là je peux faire ça, mais en tout cas, réunir ce qui n'est pas dissociable. C'est important de réunir ce qui n'est pas dissociable et de toujours mettre en place des choses qui pourront être utiles aux travaux de l'année d'après. Sinon, effectivement, on se retrouve à avoir trop de dépenses ou à avoir des choses qui sont mal faites et qui ne sont pas adaptées aux futurs travaux.
Et alors, pour procéder dans le bon ordre, qu'est-ce qu'il faut faire en premier?
Faire appel à un architecte d'approcher Cohabitat, je dirais.
Voilà.
Se faire conseiller. Je pense que c'est très important. Aujourd'hui, il y a des acteurs quand même sur le territoire. Donc, bien sûr, il y a des privés, que ce soit des architectes, des maîtres d'œuvre, des gens dont c'est le métier, que vous pouvez contacter.
Donc, ils viennent chez vous et ils vous disent, en gros, ce qui ne va pas et quoi faire.
Voilà. Ouais. Mais on a aussi des associations. On a la chance d'avoir des associations intéressantes. Donc, moi, je suis coprésidente d'une association qui s'appelle Approche et Cohabitat, dans laquelle on fait du conseil gratuit aux particuliers. Donc on fait des permanences, c'est sur rendez-vous, il suffit d'aller sur le site internet. Donc vous pouvez prendre des rendez-vous, ça dure 45 minutes, vous êtes avec un professionnel de la construction qui vous renseigne sur votre projet, ça c'est une première possibilité. Vous pouvez aussi prendre rendez-vous pour qu'on vienne sur place, dans le cas d'une rénovation par exemple, on vient Là, c'est payant, c'est 3 heures et vous avez un professionnel qui vient chez vous. Vous avez aussi beaucoup de conseils de la part de l'association qui s'appelle Chase Braze, qui aide aussi. Voilà, nous, on est en collaboration avec eux régulièrement sur les projets de rénovation.
Ils sont dans le Finistère ?
Oui, ils sont sur toute la Bretagne. Hein. Mmh. Ils ont leurs locaux à Rennes, mais ils font moins de visites parce qu'ils sont loin, donc ils font moins de visites sur place dans le Finistère. Chez Approche, on fait ça, mais en tout cas, ils ont des fiches aussi intéressantes et des ressources en ligne que vous pouvez consulter. Donc voilà, ne pas hésiter à se rapprocher des associations qui sont là pour ça.
Et puis oui, localement, il y a donc Énergence pour ce qui concerne en tout cas le Fou, enfin le nord du Finistère. Oui. Le centre Finistère, c'est la Lécope, je crois, et
Tinéo.
Et Tinéo pour la Cornouaille.
Tout à fait.
Donc là, c'est pareil, c'est gratuit, mais faut aller sur place.
Voilà.
Ils viennent pas.
Voilà, sachant que la question de l'habitat, ça va être des questions liées à la physique ou à la biologie. On parlait de science. Ça va être d'interactions entre la température, entre l'humidité, etc. Donc sur le papier, ça peut sembler simple. Ce qu'il y a, c'est que compte tenu de la complexité de tous les phénomènes qui vont se passer dans une maison, juste réfléchir par soi-même, il se peut qu'on parvienne à une conclusion qui tient la route. C'est tout à fait possible. Personnellement, je parierais pas dessus.
On n'est pas des pros. Hein.
Voilà,
c'est
on n'est
pas. Chacun son métier.
C'est ça. Mm-hmm.
Il y a aussi la question dont on a un petit peu parlé tout à l'heure, mais sur laquelle on peut revenir, celle des matériaux utilisés pour rénover. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Parce que c'est vrai qu'on pollue aussi notre air intérieur allègrement depuis des années. Hein.
Il y a la question effectivement de la pollution des de l'air intérieur parce que ça va être des matériaux issus de la pétrochimie et tous ces plastiques, ce ne sont pas des matériaux inertes, ça génère ce qu'on appelle des COV qui vont polluer l'air ambiant, donc avec des conséquences sur la santé, pas sur un prix tout seul, mais par contre le cumul de tous ces éléments va finir par...
Quoi, c'est les peintures, c'est ça, surtout les vernis, les choses comme ça.
Les vernis, toutes ces voilà. Donc du coup, faire attention là-dessus. Et puis la question des matériaux, elle ne touche pas finalement qu'à la santé de l'humain qui est dans la maison. Ça touche aussi dans le fait que produire un matériau, ça a un coût environnemental.
Oui, qui n'est pas toujours calculé. Parce voilà. Qu'il y a aussi la question du prix. C'est vrai qu'on a l'impression, et je ne suis pas sûre que ce soit qu'une impression, que les matériaux les plus écologiques sont les plus chers. Parce que tout n'est pas pris en compte.
Voilà.
La pollution générée par la fabrication, je ne sais pas, de laine de verre ou de laine de roche n'est pas encore vraiment prise en compte.
Voilà, la laine de roche, je pense que Julie, tu me confirmeras, c'est un matériau qui consomme une quantité d'énergie colossale pour être produite.
Alors ça a dû augmenter, mais pas encore... De manière assez voilà. Sensible.
Je pense que ce qui est important sur la question du prix, en tout cas, hein, aujourd'hui, depuis longtemps, on entend cette opposition un petit peu entre matériaux écologiques, matériaux non écologiques. Je pense là où on retrouve un équilibre intéressant, c'est de se dire que si on utilise des matériaux locaux, il y a des chances qu'ils soient moins chers.
Oui, mais ce qu'on va en trouver.
Et ils sont plus écologiques. Ah. Et aujourd'hui, on en trouve. Hein, il y a quand même des filières, justement, qui se remettent en place, etc. C'est des choses qui existent, qui sont là. La terre, il y en a en Bretagne aujourd'hui, on le sait. La paille, il y en a. On est un territoire où il y a de l'agriculture. De la paille, il y en a. Moi, je fais des projets à Douarnenez. On trouve de la paille pour isoler les maisons. Donc, c'est possible. Maintenant,
mais est-ce qu'on peut isoler n'importe quelle maison avec, en rénovation, hein, je veux dire, avec de la paille?
Oui, bien sûr.
Ah oui? Aujourd'hui. On peut mettre dans ses combles, on peut mettre de la paille.
Alors, ça demande une mise en œuvre spécifique, hein, ça. Mais en fait, comme tout matériau, et finalement, c'est là pour nous la règle. C'est les matériaux, ils peuvent être utilisés tous quasiment si on les met au bon endroit de la bonne manière. C'est ça qu'il faut vraiment retenir. Et c'est comme ça qu'on construisait avant. Qu'est-ce que j'ai comme matériau? Ah bah j'ai ça en bas de chez moi, d'accord. Je vais construire avec. Comment je fais pour que, avec ce matériau-là, je fais une construction qui est pertinente et qui répond à mon besoin? Aujourd'hui, la réalité, c'est que c'est comme ça qu'il faudrait le faire. C'est comme ça qu'il faudrait le faire. On a de plus en plus la capacité de le faire. Donc, regardons ce qu'on a ici. C'est le plus simple, en fait. Ça fait de l'emploi local. Enfin, c'est tout à fait possible.
sachant que la méthode avec laquelle ça va être mis en place n'a rien à voir avec les méthodes qui existaient dans le temps. On sait faire infiniment plus performant et infiniment plus confortable qu'il y a 100 ans en arrière.
Oui, on a quand même progressé, on ne revient pas à la bougie, n'est-ce pas ?
Non, on ne revient pas à la bougie, c'est pas du tout ça le propos.
Non,
du tout.
Pas du tout.
Mais quand même, il y a une question sur le nombre de professionnels pour la rénovation, de professionnels vraiment capables de mettre en œuvre une rénovation, comment dirais-je, logique, enfin cohérente, bien effectuée aussi. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus, Julie ?
Je pense qu'il y a peut-être un défaut de formation parfois hein, sur ces questions-là. Effectivement, tout le monde n'est pas formé, et c'est la réalité aujourd'hui dans les cursus classiques de maîtrise d'œuvre, d'architecture, etc. Tout le monde n'est pas formé à ces questions de bâti ancien, à l'utilisation de matériaux écologiques qui vont demander des mises en œuvre spécifiques. Donc c'est important de se rapprocher des personnes qui ont eu l'envie et ont suivi ces formations-là et d'aller discuter et d'aller essayer de faire bouger un peu les choses. Nous, avec Approche Ecohabitat, on est en collaboration, mais en échange, en tout cas, avec des centres de formation pour travailler sur ces questions-là. Avec le LICES à Quimper, on a échangé avec eux là récemment sur leur bac pro, comment est-ce qu'on peut amener, et ils l'intègrent de plus en plus.
Oui. Hein,
je ne veux pas dire que rien n'est fait, les choses sont faites, mais il y a encore des choses à faire sur la formation. Si on prend une formation de plaquiste, par exemple, quelqu'un qui veut être plaquiste, s'il ne connaît pas les matériaux biosourcés...
Ah, il y en a aussi, et des plaques biosourcées.
Oui, par exemple, ouais. Mais en tout cas, si on veut faire du doublage isolant d'une maison, que vous appelez un artisan, que lui n'a pas connaissance qu'on peut le faire en laine de bois, en paille, il ne va pas vous le proposer. Et c'est normal.
Bien sûr.
Donc, pour moi, la problématique, elle est là. Elle est de dire qu'il faut que tout le monde soit au courant de quel est le bon matériau à utiliser au bon endroit. Et dans ces cas-là, ça sera aussi plus facile pour les particuliers qui souhaitent rénover, qui ne passent pas toujours par un architecte et un maître d'œuvre.
Et il y a combien d'artisans et d'artisanes dans Approche Ecohabitat ?
Alors, je n'ai pas les chiffres exacts de cette année, mais je sais qu'on est à peu près 200 adhérents. Ouais.
Du Finistère, de la Bretagne ?
Sur la Bretagne.
Oui, ça commence à faire pas mal. Et le but, c'est aussi que vous, entre vous, quoi, vous puissiez vous former, vous co-former. Enfin, c'est
oui,
ça.
Bien sûr, c'est tout l'intérêt de l'association. Hein, donc, on fait des événements, on va dire, pour les particuliers, on en a parlé, hein, les rendez-vous, les visites conseils, etc. On fait aussi des temps d'échange entre professionnels, justement, sur des points techniques qui nous semblent importants. Au mois de mars, à Quimper, on organise, par exemple, avec les professionnels, une rencontre sur la filière chaume. Donc, on a l'Association nationale des couvreurs chaumiers qui viennent discuter de où en est la filière chaume, qu'est-ce qu'il est possible de faire, quelles sont les techniques de mise en œuvre. Donc, ça permet aussi, justement, ensemble, d'essayer de répondre à ces questions-là et de se former, tout à fait.
Donc plus de compétences, plus d'intelligence, plus de compréhension. Enfin, en matière de projet de société, je trouve ça plutôt agréable. Sachant qu'effectivement, il y a la question des professionnels, mais il y a aussi la question de les particuliers, les gens en fait, qui vont avoir aussi, auprès de qui il y a des missions de sensibilisation à mener.
Oui.
C'est-à-dire que plus on pourra, alors c'est vraiment le métier des petits débrouillards de faire de la sensibilisation,
c'est
la médiation.
C'est ce que j'allais demander, est-ce que vous faites des ateliers, parce que rénovation de logement, pas encore.
On ne fait pas forcément des ateliers rénovation
avec une fausse
à
maison,
proprement parler, mais par contre, là au printemps à Saint-Hervé-Arzec, on aura une séance sur l'habitat bioclimatique.
Comment vous allez faire ça, concrètement?
On a des jeux en fait qui permettent des jeux de plateau qui permettent d'avoir une vision globale sur l'habitat, et puis après on a des expériences qui permettent d'aller autour des défis comme isole ta canette, on peut faire du diagnostic aussi. Dans un centre de loisirs, avec des outils du quotidien, on va pouvoir aller mesurer la fenêtre, par exemple.
Ah oui. Est-ce qu'il y a des courants d'air?
Est-ce qu'il y a des courants d'air, des petites fiches diagnostiques où on va aller faire les diagnostics avec les enfants dans la structure, ouais. Et donc ça amène à se poser des questions. Ça arrive très souvent qu'on fasse ce genre de séance auprès des enfants, mais on pourrait aussi très facilement le faire auprès des adultes.
Hein. Ah bah oui, c'est ce que j'allais dire. Raison. Ouais.
J'allais rajouter sur cette question de diagnostic, tu fais bien de mentionner, parce que c'est pas un mot que j'ai beaucoup utilisé finalement là aujourd'hui, mais pour moi, pour adapter, rénover correctement son logement, la première chose à faire, effectivement, c'est de faire un diagnostic.
Oui, c'est ça.
On est d'accord hein, que pour ne pas se tromper, il faut faire un diagnostic.
Pour faire les choses dans l'ordre,
tout à
justement.
Fait.
D'abord, en général, plutôt une isolation. Et après, on change ses fenêtres, son mode de chauffage, c'est ça ? J'ai ça. Dit à peu près dans l'ordre.
Oui, on peut dire ça, mais avant même de savoir... Par exemple, on veut isoler sa maison.
Et une
la
ventilation.
La première chose à faire, c'est de se dire, je veux isoler mon mur, est-ce qu'il est humide ? Faisons un diagnostic. Est-ce que ce mur-là est humide ? Pourquoi ?
Est-ce que ça vaut le coup ?
En fait, j'ai pas drainé les extérieurs. Il faut que je draine, en fait. Il faut que je mette un drain au pied de façade. Ah oui. Donc, il y a besoin de vraiment faire un diagnostic pour comprendre est-ce qu'il y a déjà des pathologies existantes avant même d'intervenir. Ça, c'est hyper important.
Et donc, on s'adresse à l'association Approche Eco Habitat, qui propose notamment des diagnostics à domicile.
C'est ça.
Merci beaucoup et merci au petit débrouillard qu'on retrouve déjà sur le site internet de Transistor. On peut réécouter les émissions précédentes et il y en aura d'autres sur les adaptations au changement climatique. La prochaine, ce sera le 1er avril, mais ça ne sera pas un poisson.
Merci.
Merci.
Dans un instant, rendez-vous dans la deuxième partie du LEM du mardi avec nos marrons.